Et bonjour à tous, on est réunis une deuxième fois pour Passement de Jambes avec Martin.
Salut.
Salut Martin. Et Boris, encore une fois avec vous. On se retrouve aujourd'hui pour aborder deux thèmes. On va faire on va essayer d'élargir un peu sur le mercato, faire un retour des principaux mouvements et qu'est-ce que ça change finalement tout cet argent qui arrive en Angleterre. Puis après, on fera un deuxième point sur l'équipe de France. Mais avant ça, on a deux petits nouveaux à vous présenter.
Parce que c'est la fin du mercato et nous aussi on a recruté. On va les laisser se présenter.
Bonjour, c'est Jange. Voilà, moi je suis pas un spécialiste du foot, mais bon, je kiffe bien discuter avec mes potes. Alors voilà, bonjour.
Salut, c'est Jonathan. C'est la touche technique en fait. Donc moi je suis là pour apporter un peu un regard neuf avec des précisions un peu plus pointues que ce qui a pu être fait la semaine dernière.
Oh, parce que Martin, Gilles, Antoine et moi, on est des peintres en fait, on n'y connaît rien au foot. Et donc on a amené Jonathan parce que
c'est l'idée du recrutement.
C'est le mec technique.
Alors c'est le mec technique. Je jugerai si c'est un flop ou un top.
Bon, bah, du coup, en parlant de flop et de top, on verra peut-être en fin d'émission si on a un peu de temps. Chacun on donnera un peu nos tops et nos flops du mercato, plusieurs ou un seul, hein, ça dépendra des idées que vous avez à ce moment-là. Alors, on va repréciser un petit peu sur le contexte du mercato qui a été cette année vraiment ultra agité par les clubs anglais, hein, qui avec les droits télé, et c'est que le début, hein, on peut se dire que ça va être encore pire l'année prochaine, puisqu'ils passent à 2 milliards et quelques au niveau des droits télé à se répartir à partir de l'an prochain, que ça risque de devenir sévèrement difficile.
Alors
pour
pourquoi tout le monde va en Angleterre alors ?
Pourquoi tout le monde va en Angleterre ?
La réponse est simple, à mon avis. Tout le monde va en Angleterre parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Et en Angleterre, c'est là où on propose les plus gros chèques. Et finalement, on se rend compte que les mecs sont assez attirés par les gros chèques. Il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas hésité à aller en Russie ou en Ukraine quand on leur proposait des gros chèques. Aujourd'hui, les clubs anglais sont ceux qui alignent le plus. Il y a les joueurs qui prennent une décision, mais souvent, ils sont aussi tributaires un peu du choix du club. Et quand le club pousse le joueur à partir dans un pays, c'est souvent en Angleterre parce que c'est là qu'il...
Mais après, ça reste que des joueurs... Là, on parle des joueurs moyens pour les petits clubs. Parce qu'il ne faut pas non plus dire que sur les grands clubs, ils n'ont pas pris non plus n'importe qui, ont payé n'importe comment. Alors, ils payent plus cher, c'est difficile de s'aligner. Mais du coup, là, on est plutôt en train de vivre un truc où c'est pour les clubs moyens que ça devient...
Ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec Jonathan. Je ne suis pas sûr qu'il y ait... qu'un aspect financier là-dedans. Il y a pas mal de joueurs, à mon avis, qui veulent faire la bascule un peu à la Loïc Rémy. Ils rentrent dans des petits clubs à la Dimitri Payet, Jordan Ayew, etc. Mmh. C'est leur porte d'entrée dans le championnat anglais. Et les mecs, en fait, je pense que s'ils y vont, c'est pour être recrutés derrière par Chelsea, être recrutés derrière par Manchester United, être recrutés par Arsenal, etc. Je pense que c'est juste une première porte d'entrée. Je suis pas sûr que le financier soit 100% du choix, en fait.
Est-ce que tu as vu comment Baffé, là, il est en train de devenir un Baffé Gomis, là, qui revient sur le devant de la carte. Non, mais il revient sur le devant de la scène. Si tu regardes un peu sur Twitter, tu suis un peu les fils de la Première Ligue ou de la BBC, les mecs mettre des images de Baffé Gomis. Est-ce qu'en France il était déjà aussi, il a été aussi coté que ça? C'était un bon joueur, mais ça n'a jamais été un joueur fantastique. Mais là, il commence à peser. On peut se dire qu'au prochain mercato, il faudra compter avec Gomis, quoi.
Ouais, même peut-être le mercato d'hiver. Et un mec comme André Ayew, il en est à 3 buts en 5 matchs là. Il montre qu'ils, Swansea, ils sont allés battre Chelsea et tout. Les mecs, ils sont, à mon avis, c'est un tremplin.
André Ayew, c'est un tremplin. Enfin, oui et non. Le Marseille, c'est plus coté que d'aller jouer au Pays de Galles pour André Ayew. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il va jouer en Première Ligue et qu'effectivement, il est médiatisé. Mais il ne faut pas se mentir, il passait plus souvent sur Canal+ l'an dernier. Et les Français, notamment, voyaient André Ayew plus souvent à la télé quand il jouait en Ligue 1. Parce que les Français, ils suivent la Ligue 1 plus que la Première Ligue. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est une réalité. Maintenant, les clubs anglais... certes, ils vont peut-être voir André Ayew un peu plus souvent, mais s'il se plante au pays.
Ouais, mais sportivement, le mieux c'est quoi? C'est de rester à Marseille ou d'aller essayer une saison de te faire remarquer pour aller à Manchester. C'est-à-dire que on a un prisme vachement français quand même.
Cette année, avec l'Euro 2016, c'est carrément, moi je trouve que c'est un hyper gros risque de partir à l'étranger, même si jamais t'as, comme je suis d'accord avec toi, Martin. Tu gagnes plus de sous et puis bah, le challenge quand même en Angleterre est quand même vachement plus intéressant. Je pense que le football anglais est quand même mieux que le football français.
Gros débat, monsieur. Ça fera l'objet d'une autre émission.
En, 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 en comptant l'Euro 2016, tu te dis que les gars, ils partent, enfin Martial, il est parti là à United.
Martial, j'aimerais bien qu'on en parle à part, parce que à mon avis, ça va être bien 5 minutes juste sur lui.
Justement, ça c'est un très bon exemple, et je te remercie Gilles-Antoine, parce que quand tu prends le choix de Martial...
Est-ce qu'il a eu le choix ?
Non, mais voilà, justement, c'est exactement ce que je disais, Martial n'a pas eu le choix, il a été poussé par Monaco, parce que Monaco, ils ont eu une offre inespérée pour Martial, après on parlera de la... Est-ce que c'est un bon transfert ou pas ? Mais typiquement, il a très peu joué à Monaco... cette saison, c'est sûr qu'il était annoncé comme un titulaire à Monaco, comme un leader. Et aujourd'hui, il part à Manchester avec des coéquipiers qui ne le connaissent même pas. Rooney qui déclare dans la presse qu'il ne connaît pas Martial. Et c'est logique. Alors que l'an dernier, il a joué la Ligue des Champions. Aujourd'hui,
c'est là où il s'est fait connaître d'ailleurs.
Et c'est là où il s'est fait connaître. Aujourd'hui, il va à United.
Je crois qu'on sous-estime quand même l'exposition. Là, parce que tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est mieux d'être à Marseille que d'être à West Ham. Mais tu sous-estimes l'exposition des clubs anglais dans le monde. Hein.
Je suis d'accord.
Parce que là, dans la première émission, on parlait un peu des clubs anglais. Bon, on leur tirait un peu dessus, mais il suffit de voir pourquoi les mecs ont des droits télé aussi élevés. C'est-à-dire que l'exposition qu'ils ont dans le monde, il y a des mecs en Asie qui sont prêts à payer des centaines de millions pour voir le championnat anglais. Donc les mecs seront plus vus en jouant à West Ham qu'en jouant à Marseille. Ah, mais... T'as l'impression que c'est un plus gros club parce que on a un regard franco-français sur le truc. Mais aujourd'hui, aller jouer à West Ham, t'es beaucoup plus exposé. Finalement, c'est beaucoup plus regardé même par les autres recruteurs des championnats étrangers, les Espagnols, les Allemands ou les Italiens, que le championnat de France.
Les recruteurs, ce qu'ils vont regarder essentiellement, ils vont pas regarder un match entre West Ham et West Bromwich Albion. Ils vont regarder un United Chelsea, tous les matchs de Ligue des Champions.
Il suffit de voir les effectifs.
Qui
les effectifs qu'ils ont maintenant, West Ham, Swansea.
Est-ce que vous regardez un match de seconde zone de Premier League?
Non, j'ai non, pas mais... pile. non, mais je pense qu'en fait, il y a quand même.
Moi, je les regarde. Sincèrement, je regarde. Je regarde tout le championnat anglais parce que on t'en passe. T'as tous les matchs. Les mecs maintenant, dans n'importe quelle équipe, tu vas trouver des joueurs, de bons joueurs. Même de très bons joueurs parfois dans certaines petites équipes, qui ça sera plus plaisant à voir jouer. Après, ça dépend si ce qu'on appelle plaisant, parce que je pense que qualitativement, on joue moins bien en foot qu'en Angleterre qu'en France. Après, ça reste à mon avis, ou encore moins qu'en Espagne, tactiquement. Mais après, ça dépend ce que tu vas chercher. Moi, quand je cherche, regardez, j'ai envie de voir du foot hein, où ça joue un petit peu et pas forcément du box-to-box. Moi, le box-to-box, ça m'ennuie. Un mec qui part de son camp pour aller finir les actions et qui a couru 80 mètres, c'est pas ce qui me fait rêver dans le foot. Moi, j'aime voir du jeu à une touche de balle, etc. Après, en termes d'exposition et de plaisir que tu peux prendre à regarder un match anglais, il y a quand même, c'est un show que tu regardes. Donc les mecs, ils vont là-bas aussi pour se montrer. Alors ça dépend aussi ce que tu dis, challenge sportif ou pas. Enfin, je sais pas.
Mais après, pour en revenir au transfert, je crois qu'il y a quand même deux prismes qui se dégagent un peu. C'est tous ces joueurs-là qui sont un peu vieillissant, éternel espoir, fin de contrat, genre les Ayou, Payet, etc. vont s'offrir une deuxième chance dans des petits clubs. Et t'as tous les gros qui achètent que des gamins en fait.
Ayou c'est 8 millions à la signature et le transfert leur coûte
3 millions. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que les gros
en salaire, hein. Il a 3 millions de salaire par an, 8 millions en prime à la signature. Là c'est quand même, ouais, c'est regarde, pas pour rien qu'il va à Swansea. Là je rejoins un peu Jonathan quand même sur sa phrase du début. Ils vont quand même pour l'oseille un petit peu, faut pas exagérer. Tu prends 8 millions à la signature, qui va te l'offrir ça en France? Personne.
Je crois pas qu'un mec comme Ayou, il a le jeu pour jouer à Chelsea, pour jouer à Manchester, mais que tous ces clubs-là, maintenant, ils achètent que des gamins.
Pour être sur le banc, mais
ils vont mettre 74 millions.
Il a pas sa place.
Il a pas sa place, il va remplacer qui à Chelsea?
À Manchester et tout, il a sa place, c'est un bon joueur.
À Manchester,
ce que je veux dire, c'est que City et tout, ils achètent des gosses. Mais c'est pas la même chose. Mais c'est ce que je te dis. C'est exactement ce que je te dis. C'est
que les gros plus défensifs.
Même au niveau du prix,
il prend la place de Schweinsteiger.
Ça n'a rien à voir.
Mais non, il prend pas la place de Schweinsteiger, il va sur le banc.
Au niveau du prix, j'aimerais bien comparer les salaires, tu vois.
À mon avis, il prend 3 millions là.
Bah oui, mais il prend combien Schweinsteiger?
Je pense qu'il en prend 12 ou 13.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à tarif moins élevé, je pense qu'il a largement sa place. Après, comme tu dis, c'est que les mecs, ils achètent des deux pailles qui a quoi, 20 ans? 19 ans, 20 ans.
Ouais.
De Bruyne qui a quoi, 23 ans, 22 ans, qui est payé 74 millions. Martial qui a 19 ans, qui est payé 80.
Ah, c'est 50,
maintenant,
hein.
Les mecs, ils sont prêts à mettre 80 millions. Ils sont prêts à mettre 80 millions sur des gamins, mais ils sont pas prêts à assurer des salaires à des joueurs qui sont confirmés et qui ont largement le niveau pour jouer chez eux. Et c'est là où il y a un peu une folie, un peu déraisonnée. Enfin, mais en Angleterre,
déraisonnée pas forcément, ils ont l'argent.
En fait, ce qui raconte, c'est qu'en Angleterre, ils n'ont pas encore l'argent. C'est l'année prochaine que ça va arriver, mais tous les mecs anticipent. Parce avec que juste la volonté de ne pas descendre en D2 l'année prochaine, sinon ils perdent le jackpot. Donc les mecs.
United a les sous, pour le coup.
Ouais, non, bien sûr,
mais ils ont un contrat à 95 millions par an avec Chevrolet, donc c'est vrai que ça aide quand même. Mais
justement, cette politique où tous les clubs surinvestissent cette année pour éviter de descendre et pour toucher la manne financière l'an prochain avec les droits télé qui ont été renégociés en Angleterre, est-ce que c'est pas suicidaire? Est-ce que déjà le fait de renouveler tout un effectif, ça assure et ça garantit la possibilité de rester en Premier League? Je suis pas sûr.
Ouais, c'est qu'il y a trois mecs qui descendent.
Et surtout, il y a que trois mecs qui descendent.
Faut pas être le couillon, quoi.
Et surtout, les trois clubs qui vont descendre, ça va faire mal parce que il va falloir supporter les surinvestissements qui ont été faits s'ils ne touchent pas l'an prochain les droits télé.
Bah, ça fera des. Ça fera Leeds. Leeds United.
Il y aura c'est trois couillons.
À l'époque où tu avais. Où tu avais les Australiens qui jouaient à Leeds, ils ont coulé au fur et à mesure. Hein.
Ouais. Pourtant, ils avaient compris
avec Marc Viduka. Ouais, mais ils ont coulé au bout d'un, quand les mecs sont devenus moins performants et qu'ils avaient des gros salaires, bah, ils ont un peu coulé. Mais moi, je pense que ça va nous sauver en Ligue 1 hein, pour le moment. Parce que ça nous rapporte de l'argent. Hein.
On Martial, typiquement.
Non, mais tu prends Idriss Agueil qui est parti de Lille. Bah, Lille, ils clôturent leur budget grâce à ça. Parce que je pense qu'ils sont bien dans le rouge et que la DNCG, ça aurait chauffé pour leurs fesses. On a des mecs comme ça.
Nice, il aurait dû. Avec Amavi.
Gueye, il devait aller à Marseille. Hein. Il va pas à Marseille, ça sauve Lille. Hein. Parce qu'il n'aurait pas signé pour le même montant.
Le joueur de Caen aussi, le milieu défensif.
N'Golo Kanté.
Kanté, ouais. C'est pareil, il va aller à Marseille et il est parti en Angleterre.
Mais ça sauve les finances des clubs.
Mais il y a quand même un truc, j'ai l'impression que les clubs anglais recrutent n'importe comment, genre Djilo Boji, qui a été acheté par Chelsea.
Blague, 3 millions.
En fait, j'y pense comme ça, c'est pas une question de prix, c'est que même sportivement, je vois même pas ce qu'il peut apporter à un club comme ça.
Il y a un truc qui vient faire du nombre. Mais Martial, il vient faire du nombre un peu. Hein. Martial, c'est la bouteille
de pinard. Attends, à 80 millions d'euros.
Ils n'ont pas d'attaquant.
Attends, Martial, c'est la bouteille de pinard que tu payes 15 euros à l'épicier le samedi soir parce que tout est fermé. Hein. C'est le dernier mec, t'es prêt à mettre ton oseille. Tu dis, il ne reste plus que ça, je l'achète.
Tu dis que Monaco, ils vont cracher, ils vont lâcher le joueur.
Et c'est 50 millions. Après, ils ont 10 répartis. 10 s'il fait 25 sélections, 10 s'il met 25 buts et 10 s'il est dans le top 10 du Ballon d'Or.
Bon, donc tu vois, millions.
Donc ça peut monter à 70. Ouais, là, tu vois. Mais là, tu vois, il arrive du coup à une période où là, il arrive, ça se cale bien pour lui parce qu'il arrive aussi en équipe de France et que ça va lui faire quand même une bonne exposition. Je pense qu'il va les faire ces matchs. Il va faire 25 matchs. Il ira à l'Euro. Et
Bah oui, mais il y a pas de concurrence à Manchester pour l'instant. Ouais, mais dès le début, Van Gaal, c'est tellement un fossoyeur.
Moi, je pense que ça nous permet
de mettre sur le banc tout de suite.
Ouais, si ça marche, à l'inverse, on aura quelqu'un parce que là, tu vois, on a fait Kier qui se blesse. Et ça va nous permettre de parler un peu de l'équipe de France du coup, parce que c'est le deuxième point aujourd'hui. On a fait Kier qui se blesse, on a Martial qui arrive. Moi je me dis c'est peut-être le bon moment
pour ma part. Martial il m'a pas impressionné. Quand je vois qu'il est transféré pour 50 millions d'euros à Manchester United alors que il a rien fait, il a rien prouvé, pour moi je mettrais plutôt 50 millions sur un mec comme Batshuayi qui a plus prouvé, et pour autant il ne les vaut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le marché, le marché des transferts, il est complètement déraisonnable.
L'investissement, je ne comprends pas comment ils peuvent faire leur plus-value, mais bon.
Bref. Je ne vois pas du tout Marseille en équipe de France pour l'Euro 2016. Enfin, mais
tu ne le vois pas s'imposer ou tu ne le vois pas être pris?
Non, bah, je pense qu'il va être pris parce qu'il coûte cher. De toute façon,
ah du coup maintenant son prix ça le
on est un peu en pénurie d'attaquants quoi.
Ça va pas être un premier choix, ça va être un second choix pour moi.
Ouais, les titulaires ce sera Griezmann, Benzema devant, à mon avis ça va changer.
Moi ça m'embête que Fekir soit blessé, j'aurais bien voulu le voir même en 10 hein, parce que là Didier Deschamps il lâche un peu le 4-3-3, mais on verra ce soir ce que ça donne contre la Serbie, mais il lâche un peu son 4-3-3, il passe au 4-4-2. On va voir ce que ça donne. Fekir, ça aurait été intéressant de le voir justement un peu décrocher, parce que Benzema décroche aussi, donc ils auraient pu aussi alterner sur les postes. Ça m'aurait intéressé de le voir comme ça là. Pogba en 10, ça m'a pas convaincu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je l'ai trouvé perdu un peu Pogba là.
J'y crois pas moi, ce système avec deux pointes et un numéro 10.
Ah, surtout que
j'y crois pas. C'est pas que le schéma me plaît pas. Le schéma pourquoi pas, mais en tout cas Didier Deschamps. Ça l'intéresse pas de jouer comme ça.
Pourquoi il l'a fait alors?
Je pense qu'il voulait se rassurer en se disant l'Euro c'est encore loin, j'essaye ce schéma, le schéma ne fonctionne pas et on passe à un autre schéma. Mais même Fekir en numéro 10, il joue pas comme ça à Lyon. Enfin, en tout cas, il n'était pas prévu qu'il joue comme ça cette saison à Lyon, parce qu'il y a Valbuena qui joue en numéro 10, et Fekir, pour l'instant, il a été aligné en deuxième pointe avec Lacazette. Et je pense pas qu'en équipe de France, Deschamps va opter pour ce schéma. À mon avis, Deschamps, ce qu'il veut faire, c'est conserver le milieu du PSG. Enfin, le milieu du PSG. Ce triangle avec trois milieux défensifs. Ah,
4-3-3, tu vois.
Ouais, exactement, ouais. Et à partir du moment où tu joues avec trois milieux comme ça, tu peux pas... Tu peux pas avoir un numéro 10
et sans l'animation, elle sera sur les ailes. Elle va passer sur les ailes avec Griezmann et Valbuena. Du coup, je pense que Valbuena va récupérer la place de Fekir.
On resterait comme ça, mais ça donnait un profil un peu différent avec Fekir, tu vois, au niveau de la percussion. Bah,
hein. Il sera pas là, mon avis, il reviendra pas. Mais les mecs, ils ont l'expérience aussi de la Coupe du Monde.
Je pense que le problème, c'est que Pogba, il a voulu aussi jouer en 10, parce que là, la Juve, il reprend le numéro 10, il veut jouer en 10. Moi, j'ai pas été convaincu par Pogba aussi haut. En plus, on l'a vu au début du match, il redescend, il se retrouve à la même hauteur que Cabaye. Et finalement, Cabaye, il se met où? Pogba, il n'est pas où il devrait être. Pogba, j'ai l'impression qu'en équipe de France, Pogba, c'est un peu compliqué la transition là, entre l'année dernière où il sort d'une très très grosse saison. Il arrive là, moi je sais pas. Pourtant, c'est un super joueur. Moi, je suis complètement fan de Pogba. Il est hyper impressionnant. Mais est-ce que j'espère qu'il se voit pas trop vite arriver. Si c'est le crack qu'on attend, tu peux le faire jouer partout. Et finalement, le seul poste où il est vraiment fort, c'est celui où il était à la Juve l'an dernier, c'est le milieu centre gauche dans un milieu à 3. Sauf que là, c'est le poste de Matuidi. Moi, je vois pas Matuidi jouer à droite. Donc ça veut dire que Pogba, il faut quand même qu'il joue milieu centre droit et qu'on garde un milieu à 3 comme ça. Après.
Oui, je pense qu'avec les joueurs qu'il a, il est obligé de conserver ce système. Parce que Matuidi, là où il est le meilleur, finalement, c'est pas en pur récupérateur, mais c'est en numéro 8. Comme Pogba. Il a fait ses preuves en numéro 8, et donc on en aura un à gauche, un à droite, et il nous faut un gros numéro 6.
Qui sera Cabaye,
ouais. Non, mais moi, Cabaye, je suis pas convaincu. Schneiderlin, je suis pas convaincu. Ça peut être la Sana Diarra s'il fait une belle saison.
Il a pas joué depuis un an et demi. Attends,
non, pas la Sana
Diarra. Attends, il a fait un bon match contre 3 et il a tué 40 ballons. Bon, pas mal, 40 ballons pour une reprise après un an.
Il a toujours été sur côté.
Mais sérieux, il va le match suivant, c'est 9 ballons en première mi-temps, 7 ballons perdus, un pénalty provoqué. La Sana, moi j'attends qu'il confirme. La Sana Diarra, il a jamais confirmé en équipe de France. Il a fait des bonnes saisons, il a jamais fait de très bonnes saisons dans les gros clubs où il était. Bon, avant de le mettre le numéro 6 de l'équipe de France, j'attends de voir un peu.
Schneiderlin, moi.
Bah, dans ce cas-là, je préfère Schneiderlin largement.
On a
ce qu'on a pas mettre, faire, on a, mettre un billet sur Abu Dhabi aussi. Il faut voir si ses genoux y tiennent. Hein.
Abu Dhabi, il a jamais joué numéro 6. Il a le même profil que Pogba, un peu numéro 8.
Non, je suis d'accord avec toi, mais là, on ne peut pas des paris sur des mecs comme ça. Ils ont fait deux matchs.
Sur un numéro 6, il n'y a pas de numéro 6 qui m'est convaincu. Cabaye, il ne me convainc pas. Schneiderlin, attendons de voir. Est-ce que ça ne peut pas être le mec d'Arsenal, Coquelin? Je sais pas, il faut voir.
En tout cas, il va falloir essayer.
Moi, je pense que Cabaye, sur une saison pleine, il peut tenir le rôle à l'Euro largement.
Ce qui m'inquiète sur cette équipe de France, c'est toute la ligne défensive finalement. Ouais. Le numéro 6 et l'axe central, voire même les latéraux.
On n'a toujours pas de deuxième stopper à côté de Varane.
On n'a pas de socle.
Sagna, c'est Lège. Debuchy, il ne joue même plus.
Varane, il a une santé très fragile. Il n'y a aucun défenseur qui est titulaire dans son club. Il n'y en a pas.
Non, il n'y a pas de centraux qui sortent du lot.
Sako, il est sur le banc du banc.
Derrière Lovren.
Mangala. Derrière Lovren, mec. Tu t'es fait soulever par Lovren.
Lovren qui est quand même incroyablement nul.
Ça devient quand même difficile. Mangala, avec Otamendi qui est arrivé, je pense qu'on ne va pas le revoir de sitôt. Entre Compagnie et Otamendi, ça va être difficile. Koscielny, entre les rouges qu'il prend et les erreurs de placement.
Et c'est un pénalty par match.
C'est un peu difficile. Ça fait 4 ans qu'il est toujours là, je sais pas pourquoi. Enfin,
finalement, le seul joueur qui est titulaire dans son club, c'est Evra.
Evra, c'est un joueur sérieux. Evra,
il n'a jamais prouvé en équipe de France.
Moi je suis pas d'accord. Il a toujours été propre en équipe de France. C'est un joueur intelligent. Après, on l'aime peut-être pas en tant que mec parce qu'il est pas, c'est pas quelqu'un de très agréable avec les médias.
On parle du sportif, il se la raconte beaucoup.
Mais sur le sportif, tu peux pas lui reprocher grand chose à Evra. Il a toujours fait ses matchs. Il a toujours été carré, quoi.
Ouais, sur le sportif, j'ai jamais été transcendé par Evra. Offensivement, il
s'économise. Il a 32 ans ou 33 ans, il s'économise un peu. Regarde Maxwell au PSG, tu vas pas me dire que c'est un mec qui prend son couloir et qui fait des allers-retours.
Je pense que Digne, il peut sortir.
Kurzawa. Kurzawa, s'il fait ses 20 matchs, peut-être pas soulever Evra, ça va être difficile de passer devant Evra.
Mais de toute façon, ce qu'il nous faut, c'est pas un latéral gauche, ni même un latéral droit. Il nous faut un socle défensif qui soit puissant avec une vraie charnière. Et aujourd'hui,
et un mec qui met
pas,
des buts aussi,
je vois pas de charnière.
Parce que Benzema, il faudra qu'un jour il mette des buts. Moi, je veux bien qu'il ait un touchable parce qu'il n'y a personne. C'est pour ça que j'aimerais bien que Martial y perce, moi. Parce qu'au bout d'un moment, là, ça va. Moi, j'aime bien Benzema. Hein. C'est un super joueur. Au Real, il plante. C'est un gars technique. Mais en équipe de France, il vit toujours sur ses acquis. Moi,
finalement, il n'y a personne sur la ligne défensive, il n'y a personne sur la ligne d'attaque, au milieu de terrain, on n'est pas convoqué. En fait, l'Euro, il est baisé, quoi.
Je sais pas, mais j'étais hyper enthousiaste après la Coupe du Monde.
L'année
2014-2015, je reste sur ma faim.
Il n'y a pas de joueurs qui ont explosé, en fait.
Ouais.
Il y a Griezmann et Pogba qui ont explosé au moment de la Coupe du Monde.
Ouais. Et l'année dernière,
Griezmann fait une grosse saison, mais on ne le voit pas trop en équipe de France.
C'est plus difficile. C'est plus difficile parce que Benzema prend beaucoup de place. Après, je ne sais pas si les mecs arrivent à s'émanciper vraiment.
Non, je ne suis pas sûr.
Ribéry reviendra en équipe de France ou pas ?
Non, je pense que...
Si jamais il joue sa pince avec son dos, mais...
Non, il reviendra pas.
Pascal Vaillant-Rua, peut-être, je ne sais pas.
Non, mais la clé de l'équipe de France, c'est Matuidi. Ce sera le joueur socle du truc. C'est celui qui tiendra tout devant, au milieu.
Il y a Robert Pires aussi qui joue encore en Inde. Hein. Peut-être qu'on va le rappeler. Ouais.
Matuidi, c'est un super joueur. Au PSG, il est excellent, mais ce n'est pas un leader technique.
Il va le devenir.
Il va faire une saison de porc et ça va être le leader de l'équipe de France.
Il commence à mettre des lucarnes. Des ouvertures.
Je le vois pas en tant que leader technique. C'est un super joueur parce que physiquement il est présent. Il a énormément d'impact. Il récupère des ballons. Aujourd'hui, il est capable de marquer des buts et d'aller dans la surface de réparation. C'est super. Mais en équipe de France. C'est pas le leader technique qu'on attend, mais c'est pas un porteur d'eau, les mecs, c'est un niveau de ouf, ce que je veux dire, vous m'avez pas laissé terminer, c'est que il est pas capable aujourd'hui de mettre le pied sur le ballon et d'organiser le jeu. C'est un joueur de complément, c'est un joueur qui va aller de l'avant, qui va percuter, c'est un joueur de rupture, mais c'est pas leader technique.
Sauf qu'on lui demande pas, de mettre le tempo en jouant milieu.
Mais dans un 4-5-1, il peut faire le surnombre, il peut faire la différence. Et je pense que c'est ce type de joueurs là qui vont faire la différence dans le football.
Et regarde, on lui demande de jouer exactement comme il joue au PSG. On lui demande pas il est pas devant la défense. On va jamais, on lui demande pas de jouer 6 en sentinelle et mettre le tempo du jeu. Tu vois, on n'a pas Cabaye. Il faudrait qu'il joue comme Verratti. Avec l'équipe d'Italie, sauf que Cabaye c'est pas Verratti, donc ça on le voyait quand il était au PSG. Cabaye il est quand même un peu léger. Va en Angleterre quand tu joues à Crystal Palace, mais au PSG il a pas tenu. Moi en équipe de France, je le vois pas s'imposer non plus comme un leader de l'équipe de France.
En fait, on dit pas le contraire. Je suis pas en train de vous dire quelque chose de différent. La seule chose, c'est que pour moi, sur ce milieu de terrain-là, il a tout à fait sa place. Maintenant, ce n'est pas le leader technique. Si on n'a pas un leader technique, et moi je pense à Pogba, c'est le seul aujourd'hui, en tout cas au milieu de terrain, qui puisse jouer ce rôle. Si Pogba n'est pas à 200%, l'équipe de France ne fera pas un bon parcours parce que, Matuidi, il a besoin autour de lui d'avoir un ou deux leaders techniques. Un leader technique à côté de lui au milieu de terrain, comme Verratti peut l'être à Paris, et un leader technique
devant. Comme Zlatan, voilà. Ou je sais pas quoi.
Exactement.
Ouais, du coup, le 4-4-2, c'était éphémère pour vous. Donc on verra ce soir. Soit on joue 4-3-3, c'est ça ? Contre la Serbie.
Il n'y a plus beaucoup de clubs qui jouent en 4-3.
Donc on va revenir. Donc on repasse sur le 4-3-3 ce soir. Le 4-4-2, c'était pour tester et puis ça n'a pas marché. Donc la blessure de Fekir, finalement, ça ne change pas grand-chose à ce passage-là. Moi, c'était un peu une de mes questions. Fekir, il va revenir en mois d'avril, hein, il peut être à la Coupe du Monde. À l'Euro, pardon.
À la Coupe du Monde, sans doute. Non, mais pour moi...
Il va rater les wagons.
Tu crois qu'il ne sera pas là ? Non, il y a Falcao, l'an dernier, il se blesse en janvier, il était là en juillet. Il va revenir en mars.
Falcao n'est jamais revenu. Il est revenu sur le terrain.
Il a 20 ans. Il est jeune.
Ouais, il va rater les matchs de préparation. Il va rater les trucs. Je pense que ce n'est pas une question de niveau physique qu'il aura.
Moi, je mets une pièce sur Fekir, sur le mental, sur le physique.
Tu parles de quelque chose que tu ne connais pas, Martin et moi. On peut en témoigner. Les mecs,
ils sont fait les ligaments. C'est vrai que vous avez une condition physique de fou avant. J'avais oublié, les gars. C'est vrai que les bières que vous buviez et tout ça vous a bien aidé à revenir.
Mais sérieux, Fekir va revenir.
Laissez Nabilou tranquille.
Je lui souhaite de revenir. Maintenant, j'espère qu'il sera au top niveau. Pour l'équipe de France, c'est préjudiciable parce que c'est bien d'avoir quelques leaders techniques sous la main et sous le coude. Et ça aurait été bien.
Nabil, si tu m'entends, moi je suis derrière toi. Tu seras à l'Euro.
Puis on oublie un peu la casette, hein, ils peuvent faire un truc. Je pense. Et okay, ouais. J'ai jeté un blanc.
Ouais. Okay, ouais, et ben, je pense que c'est un peu ça. C'est symptomatique un peu de la casette, en fait. Ouais, un blanc. Je sais pas. Moi, je comprends pas. Le mec est dans un trou. J'y croyais. Je sais pas. Moi, j'y croyais déjà moyen. Moi, je pense qu'il était en surcote l'année dernière.
T'es pas surcoté. C'est toujours.
C'est toujours dur de confirmer. Non, mais
je sais pas. Julien avait mis 24 buts. Ça a jamais été un top 5 des attaquants européens non plus. Tu vois.
La casette, je pense qu'il y a du potentiel. Et à mon avis, il va revenir. Il va se remettre.
Stéphane Guivarch, hein, il avait enchaîné 3 fois 27 buts, il a mis combien de buts à la Coupe du Monde 98 ?
Attends, je réfléchis, 0.
Ah voilà. Donc pour moi, la casette, c'est un peu du Stéphane Guivarch. J'attends de voir qui j'attends. Mais j'y crois moyen.
Mais globalement,
j'espère qu'il ne vendra pas des piscines, tu vois, dans 10 ans. Mais,
pour l'Euro, tu crois ?
Ouais, il y sera parce qu'on n'a personne, de toute façon.
Et l'équipe de France pour l'Euro ?
De quoi, qu'est-ce qu'on fera à l'Euro ? Bon, on verra. Déjà, on va donner un pronostic pour ce soir, je pense, Martin. On va pas voir trop loin. Je vous propose un petit prono pour ce soir.
Alors, Gilles Antoine.
France-Serbie.
Je sais pas, je sens bien un 2-0.
Pour
ouais. Pour les Serbes, pour la France.
Jage.
Moi, je rêve pas trop avec cette équipe et je suis pas. Ouais, j'ai envie qu'ils m'apportent du plaisir, mais malheureusement, si je dois faire un prono, j'hésite entre le 0-0 et le 1 partout. Voilà.
Martin.
Moi, je pense que ça va être poussif. Mais on va gagner 1-0 sur un corner à la 70e.
Ah, c'est précis.
Ouais, je sens bien un truc comme ça.
Tu me dis qui va la mettre, cette tête.
Qui va la mettre, ça va être Pogba. Allez.
Bon, pour avoir vu quelques matchs des Serbes et pour être complètement déprimé après les avoir vus.
Ils sont très très mauvais, ils sont derniers.
Je regarde même plus le classement parce que bon. C'est un peu le cœur qui parle avec les Serbes, mais du coup. Du coup, je les vois quand même perdre les Serbes. Hein, tu vois, il fut un temps où je les donnais vainqueurs quand ils pouvaient jouer certains matchs. Là, j'arrive pas à les donner vainqueurs. Il reste pas grand monde en Serbie qui tient un peu la route, à part Matic. Ça commence à être un peu compliqué. Hein. Ivanovic, il a 100 ans et il est toujours à la traîne à Chelsea. Vidic, il est plus là parce qu'il a plus de genoux. Donc les autres, on connaît même plus leur nom.
Il joue encore Vidic ?
Non, il joue plus. Hein. D'accord. C'est terminé pour lui, le pauvre. Donc je vois une victoire de la France dans un match moribond 2-0. Okay. Avec un but de Matuidi et je me lance un but de la Benz.
Donc tu dis comme Gilles Antoine.
Bah ouais, parce que Gilles Antoine, c'est un visionnaire.
Bon allez, rapidement, on termine. Chacun va donner un flop et un top sur, je sais pas, les transferts. Alors Jean, ton top, ton flop.
Alors moi, je dirais que mon flop, c'est De Gea pour cette espèce de non-transfert qui nous a tenu en haleine. Là.
7 minutes de retard.
Voilà, ouais, enfin moi, avec qui la faute, je sais pas. Et mon top, je mettrais bien un Pedro. Voilà, même si jamais j'aime pas trop Chelsea,
Pedro, j'ai dit Chelsea, du Pedro.
Mais je pense que c'est un super coup, surtout pour le prix. Et je mettrais une espèce d'étoile, 30 millions. Je mettrais une espèce d'étoile montante.
Il a suivi les transferts, il a bossé, hein, Gilles Antoine. Bien joué.
30 millions, c'est pas beaucoup.
Non, mais. T'inquiète. Je mettrais une étoile montante sur Quintero, là, le mec de Rennes. Je pense que c'est un super coup. Un peu comme vous avez fait.
Non.
Un peu comme qu'ils avaient fait avec toi Vonen, c'était pas con ce qu'ils avaient fait. Et
surtout qu'ils le signent, je sais pas si
en prêt, je crois, ou un truc comme ça.
Ah ouais, c'est pas mal, ils l'ont signé vraiment dans les dernières heures.
Ouais, mais Rennes, c'est un peu les champions. Ça a toujours été les champions du mois d'août, hein, on verra en novembre. Hein.
Ouais, Quintero, donc, du mal à passer.
Bah, CF, hein.
Non, mais un chacun.
Pedro, Quintero.
C'était un chacun.
On fait comme tu veux.
Bah, si vous en avez plusieurs. Bah,
après, je peux te dire Valbuena parce que je pense que c'est un super coup, surtout avec la ville qui se blesse. Je trouve que c'est.
Voilà, s'il a bien fait de l'acheter, putain, il va pas regretter là avec la blessure de Fekir. Il doit se dire ouf, j'ai mon bonheur. Ah, mais grave.
Et puis même pour l'équipe de France, c'est une bonne chose qu'il soit revenu.
Jage, ton top, ton flop.
Alors pour moi, je vais prendre les deux joueurs qui ont coûté le même prix, 80 millions d'euros. Le top, c'est De Bruyne. 80 millions d'euros parce
que. Ah, mais tu l'as déjà vu jouer ce mec ?
J'ai déjà vu jouer, justement.
Ouais, parce que moi je regarde pas.
Et j'ai vu son dernier match avec la Belgique. Alors, certes, il jouait contre une équipe de deuxième zone, mais il a encore fait un super match. Il est vraiment très fort, il est rapide, il est technique. C'est lui qui porte le jeu de la Belgique. quand il jouait à Wolfsburg aussi, en Europa League, il a fait des super matchs. Et pour le coup, 80 millions d'euros, il les vaut. Et je pense qu'il va vraiment exploser en Première Ligue et qu'il va faire un, il va
comme
faire
à Chelsea.
Super, il va faire un super euro. Et en revanche, au même
prix... Comme à Chelsea, il a déjà joué en Première Ligue, il n'a rien fait. Non, on a dit qu'on commentait pas. Excuse-moi.
Et au même prix, Martial... Il y a un autre club anglais qui cachette...
Donc c'est ton flop, Martial,
c'est mon flop, ouais. 80 millions d'euros. Le mec n'a rien prouvé, il a 18 ans. Et d'ailleurs, ils ont mis 50 millions d'euros sur la table. Et Boris a rappelé au début de l'émission que les 30 millions supplémentaires, finalement, c'est des conditions auxquelles Manchester ne croit pas. C'est-à-dire que le mec mette 25 buts.
25 sélections cette année, ça va être un peu compliqué.
Il
ne croit
pas 25 sélections.
Ouais, non, alors, pas, ça va, il n'y a pas 25 sélections de France.
Non, mais ils auront peut-être 10 millions dans 2 ou 3 ans, du coup.
Mais voilà. 25 buts et qu'il soit dans les
top 10 du Ballon d'Or, c'est 10 millions.
Voilà, mais est-ce que la plus-value de Monaco, c'est pas un top? Il passe de 5 à 50 millions, c'est quand même
non,
un
mais
top.
Est-ce que tu dois pas, pour payer 50 millions d'euros déjà, est-ce que tu dois pas avoir un top 10
au Ballon? Pour toi, c'est le prix, le flop.
Ah oui, pour moi le flop, okay. C'est le prix.
Moi, je trouve
que... clairement, c'est le prix. Enfin, tu peux pas mettre autant d'argent sur un joueur qui ne vaut pas ce prix-là.
Donc, ok, voilà. Martin.
Alors moi, mon gros flop, c'est le Barça, en fait. Je signais deux joueurs pour les faire jouer en janvier. Enfin, tout ça, c'est une espèce de blague, et de la part des joueurs qui jouent qu'en sélection, et de la part du Barça qui pille la concurrence juste pour avoir des mecs et être sûr de les signer. Ça, je trouve que c'est un scandale, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc financier,
mais sur les joueurs,
pourquoi ils achètent. Ouais, mais c'est
là,
même pas le débat.
Là, tu remets en cause
non, pour moi, le flop, c'est d'être capable de lâcher 80 millions sur deux joueurs pour les faire jouer dans 6 mois. Un truc qui m'échappe, et du côté du club et du côté des joueurs. Ça, c'est mon gros flop. Je trouve que c'est limite de l'anti-concurrence.
Après, Arda Turan, c'est un joueur fantastique. Hein.
Ouais, mais je comprends pas son choix et je comprends pas pourquoi l'UEFA laisse faire. Enfin bon, bref.
Ouais,
ça, c'est mon flop. Et au niveau des tops, je mettrais deux joueurs un peu oubliés. Je pense que Dzeko à la Roma, c'est un des bons coups du mercato.
Team Dzeko depuis toujours.
Je pense que c'est un bon coup du mercato. On verra comment ça se lance dans le championnat italien. Mais à mon avis, c'est vraiment une bonne recrue. Et le deuxième, je pense que c'est André Ayew. Parce que à mon avis, il va tout péter à Swansea et il finira dans un grand club. Il signera à Chelsea ou à Liverpool, mais c'est sûr. Je pense que lui, il a fait bon choix.
T'es Marseillais, toi ?
Non, c'est pas ça, mais je l'ai vu jouer en début de saison.
C'est hyper efficace.
À mon avis, il est parfait pour le championnat anglais. Voilà. Il a montré qu'il avait
le niveau.
Je te mets mon billet que soit en janvier ou soit l'été prochain, il rejoint un des mecs du Big Four.
Arsenal,
okay.
Par exemple.
Et moi, écoutez, s'ils font un dire qu'un, ça sera Douglas Costa, hein, parce que moi je suis amoureux de Douglas Costa, le Bayern. Et ils ont fait une super affaire avec lui, il élimine, il est puissant, il est technique. Voilà. Et si je dois en mettre un deuxième, mais ça c'est le cœur encore une fois, c'est Di Maria. Di Maria au PSG, enfin, c'est un joueur de.
Il faut malade, dire que les 20 minutes qu'il fait à Monaco, ça va galérer.
Moi, juste pour 20 minutes. Juste pour 20 minutes.
C'était du bonheur.
J'arrête. Il a rentabilisé son transfert.
C'était dans le cœur, il a rentabilisé.
Je le suis jusqu'au bout du monde, hein, juste pour ces 20 minutes-là, moi. Et dans les flops, c'est la Sanadira, parce que pour moi, c'est... Et, bon, Abou Diaby, j'adore ce joueur, ça me fait de la peine pour lui, donc je vais pas le mettre dans mes flops. Mais moi, la Sanadira, j'y crois pas, j'y ai jamais cru. Je trouve qu'il a toujours été surcoté. Donc, je comprends pas ce pari d'un mec qui a pas joué depuis un an et qui joue en Russie. S'il était en Russie, c'était peut-être pas pour
lui. Ils l'ont eu gratuit.
Bah, même. Enfin, gratuit
c'est
ou pas gratuit.
C'est pas qu'une question de prix, les tops et les flops.
Là, je parle d'un transfert. Même gratuitement, je comprends pas. En fait, je comprends pas le Marseille.
Sportivement, ça
je comprends pas sportivement ce qu'ils font. Ils amènent un nom.
Il a toujours été
super. Bah, il y avait des mecs en championnat de France qui étaient peut-être moins reluisants. Moins reluisant, mais
ce sera le débat. Je propose que la prochaine émission, on démarre par le cas à la Sanadiara avec une confrontation Boris Jonathan.
On verra
regarder tous les
deux
matchs de Marseille le week-end prochain et on regarde.
Moi, j'ai regardé les matchs de Marseille. Il m'a pas impressionné.
Moi, je propose qu'on ouvre.
Il m'a pas impressionné contre le 3. Il met une roquette de 25 mètres qui est fantastique.
On va s'arrêter là parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on discute. Mais je propose que le sujet d'entrée de la prochaine émission, ce soit la Sanadiara, si vous voulez. Vous regardez tous les deux matchs de Marseille ou tous, on le regarde et on en discute juste 5 minutes. Et ça vous va ?
Très bien.
Bon, ça marche. Bon, merci de nous avoir suivis.
Merci à vous.
La deuxième émission.
Et on se retrouve la semaine prochaine. On débriefera aussi le France-Serbie, peut-être un petit peu. On reviendra sur nos pronostics.
Et puis voilà.
Et puis la journée de championnat.
Allez.
Bonne semaine à tous.